quand j'essaie de me remémorer comment tout a commencé, de renouer les fils de l'intrigue, la première image qui me revient à l'esprit, c'est celle d'Alizée Jean Didier, perdant l'équilibre et envoyant valdinguer plateaux, sandwichs et gobelets remplis de café dans la cour du commissariat central de Strasbourg. Il avait plu presque toute la matinée. Une giboulée qui menaçait de tourner au déluge, un truc à vous faire virer amphibien, à vous titiller d'un persistant désir de nageoire le long de l'épine dorsale. Avec cette fichue flotte qui dégringolait sans répit, les pavés disjoints de la cour avaient fini par devenir aussi glissants qu'une patinoire. C'était sans doute ce qui avait influencé le lieutenant Jean Didier et lui avait inspiré cette piteuse pirouette à la Candeloro. Toujours est-il que tous les gars de la brigade s'étaient pointés aux fenêtres pour en faire des gorges chaudes. Y compris les deux ou trois types de son groupe, pas vraiment charitables, pour lesquels la jeune femme avait pris le risque de jouer les ravitailleurs. De tous ces fonctionnaires zélés, je fus le seul à me précipiter sous la pluie pour venir en aide à la demoiselle en détresse, et à éprouver du coup à mon tour la sournoise perfidie du pavé alsacien. Mon élan chevaleresque s'acheva en un calamiteux dérapage non contrôlé qui me vit échouer dans les bras de celle que j'étais censé secourir. Oui, quand je repense au début de cette affaire, c'est cette vision à la fois pathétique et burlesque qui s'impose à moi. Mon corps est celui d'Alizée Jean Didier, empêtré dans la cour du commissariat, recevant à dos égal trompes d'eau et quolibets tendancieux sur la caboche. Si l'on songe aux nombreux aspects sombres, pour ne pas dire carrément glauques de ce dossier, cela peut paraître incongru que ce soit précisément cette image-là qui émerge du lot. Mais en fait, chaque fois que je prends le temps d'y réfléchir, il me faut bien admettre que tout cela obéit à une certaine logique. Toute cette histoire ne se résume-t-elle pas en effet à une somme assez pitoyable de ratages en tout genre ? Une accumulation de votre âge digne du plus navrant des bêtisiers télé de fin d'année. Le deuxième de ces lamentables plantages eut lieu ce même jour, dans l'après-midi, quelques heures à peine après notre fameux pas de deux, à Alizée et moi. Les protagonistes étaient deux jeunes de la cité du Neuil Off, 13 et 16 ans. Ils avaient piqué un scooter sur le quai des Bateliers et n'avaient rien trouvé de plus intelligent à faire que d'improviser aussitôt un slalom entre les bagnoles du centre-ville. Une patrouille de police les avait rapidement pris en chasse. Cédant à la panique, les mômes avaient poussé les gaz et cherché à semer leurs poursuivants dans les rues étroites avoisinant la place Saint-Étienne. La suite était si prévisible qu'elle sembla se dérouler selon l'implacable dramaturgie d'une tragédie classique. La vitesse, les rues noyées de pluie, l'absence de casque. Unité de temps, de lieu et d'action. Tout était écrit d'avance. À la sortie d'un virage serré, la roue avant du scooter se déroba sur une bande blanche. Le pilote inexpérimenté ne parvint pas à rattraper la trajectoire, et ce fut la gamelle, méchamment mortelle. Le môme assis sur le porte-bagages fut le premier à gicler. Roulé sur le bitume et déboulé dans la vitrine d'un marchand d'antiquités. Tête explosée, telle une pastèque trop mûre. Son pote s'accrocha quant à lui au guidon comme si sa vie en dépendait. Mal lui en prit. Lorsque la bécane heurta de plein fouet une voiture remontant la rue en sens inverse, la poignée des gaz lui explose à la rate. Triste fin pour une triste épopée. Rideau. Le chœur antique prit le relais dans les heures qui suivirent. Des branleurs de la cité, l'invective aux lèvres et la casquette en berne, vomirent leur haine des keufs au micro des radios locales. Un journaleux qui se croyait plus malin que ses petits camarades dénicha la mère éplorée de l'une des deux victimes. Devant les caméras de FR3 Alsace, encouragée par les mines faussement apitoyées de l'assistance, la pauvre femme brossa un portrait idyllique de son fiston et se lança dans une diatribe larmoyante contre pêle-mêle le racisme de la police, la lâcheté des politiques et cette société répressive qui broie les meilleurs de ses enfants.
« Vous allez voir que bientôt, ça va être la faute du sale petit bougre qui avait laissé son scooter sans surveillance. Ce sont ces enfoirés de fouilles merde qui font monter la mayonnaise. Une bavure, c'est quand même plus vendeur que la chronique de la connerie ordinaire. Et tant pis si ça doit péter dans les quartiers. Au contraire, ça fera de belles photos à la une.
À l'accueil du commissariat, le brigadier Collard et le lieutenant Kowalsk passèrent une bonne partie de l'après-midi à commenter les infos que diffusait en boucle un vieux poste de télévision portable. J'évitais de m'en mêler. Non que je leur eus donné tort. Ils avaient au contraire raison sur toute la ligne. Mais si je leur avais confié ce que m'inspirait ce brouet médiatique, cela m'aurait entraîné trop loin. Sur des chemins de nostalgie où je n'étais pas certain qu'ils pouvaient me suivre. Il aurait fallu remonter 20 piges en arrière. Évoquer les étés brûlants passés chez mes grands-parents sur les coteaux autour d'Eggisheim. Parler de la bande du Lavoir. Une douzaine d'adolescents trompant leur ennui en faisant les 400 coups. Quand certains d'entre nous eurent la mauvaise idée de faire une descente dans la cave du père Meitzer, 3 caisses de pinot noir envolées, les gendarmes me tombèrent direct dessus. J'étais le plus âgé, le chef supposé de la bande. Je ne pouvais pas ne pas être au courant. Raisonnement simpliste, mais d'ordinaire efficace pour traquer les voleurs de poules ou les dynamiteurs de boîtes aux lettres. Sauf que j'étais pas à l'origine de ce coup-là, et encore moins un mouchard. Après 24 heures infructueuses de garde à vue, on appela mon grand-père pour qu'il vienne me chercher. Je revois encore le pauvre vieux à la porte de la caserne, courbé par la honte, les yeux pleurant des larmes intérieures. Il n'y eut pas un reproche, pas un mot échangé entre nous. Mais ce fut la fin de la bande du Lavoir. Je ne pouvais me pardonner d'avoir contraint Pépère à abaisser les yeux pour la première fois de sa vie. Non, vraiment, je ne me voyais pas confier tout ça au brigadier Collard et au lieutenant Kowalsk. Ils n'étaient pas outillés pour. Rien que le truc des larmes intérieures, ça les aurait fait marrer. En revanche, pour ce qui était des étincelles que le décès des deux mômes du Neuhof risquait de provoquer dans les quartiers, ils s'étaient montrés sacrément perspicaces. Tout commença en début de soirée quand quelques 12 illuminés trouvèrent judicieux d'organiser une marche silencieuse à la mémoire des 2 jeunes couillons dont ils ignoraient jusqu'au nom la veille encore. Marche silencieuse, quelle plaisanterie. Merde alors, il y en avait vraiment qui n'ont pas grand-chose dans le carafon. Leur machin n'avait pas débuté depuis 1/4 d'heure, que les premiers débordements sérieux étaient déjà signalés. Plusieurs caillasses volant bas, 2 ou 3 vitrines descendues, et une voiture de SOS médecin salement amochée, simple confusion, paraît-il, rapport au gyrophare sur le toit. Les choses avaient réellement commencé à déraper quand des éléments incontrôlés avaient dévié de la manifestation initiale pour mettre le siège devant le commissariat du Neuhof. Barres de fer et jets de poubelles avaient vite cédé la place aux tirs de pistolets à grenailles et lancers de cocktails Molotov. Devant le nombre sans cesse croissant d'agresseurs, les gardiens de la paix avaient renoncé à justifier leur appellation officielle et s'étaient retranchés à l'intérieur des bâtiments, se contentant de serrer les fesses en attendant l'arrivée de la cavalerie. Il avait fallu pas moins de 3 compagnies de CRS pour les dégager. Les mômes étaient si excités que des ordres étaient tombés d'en haut pour se contenter de les repousser dans les quartiers. Il fallait bien que jeunesse se passe, et tant que les sauvages se contentaient de dévaster leur propre territoire, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et le champagne pouvait continuer de couler sous les ors de la République. Résultat de ce calcul des plus cyniques, une nuit d'embrasement dans toute la cité du Neuhof. Les gamins avaient fait cramer les voitures que leur paternel n'avait pas encore fini de payer. Et pour faire bonne mesure, ils avaient rayé de la carte la médiathèque et le gymnase qui constituaient leur seul lieu de distraction. Les plus acharnés s'en étaient pris ensuite au premier véhicule de pompiers dépêché sur place. Il était environ 3 heures du matin quand ces derniers avaient enfin pu circuler librement et intervenir pour éteindre les multiples foyers disséminés dans tout le quartier. Et 4 heures et quart, quand les stridences du téléphone avaient résonné dans les locaux de la brigade criminelle du SRPJ de Strasbourg. Comme j'étais le seul officier de permanence cette nuit-là, le brigadier chargé du standard m'avait aussitôt répercuté l'appel. Et c'est comme ça que tout a vraiment commencé, que j'ai hérité de l'affaire.